Vous écoutez On lit pour vous.
Le Nouveau-Brunswick compte 10 nouveaux médecins de famille formés à l'étranger. Un texte de la rédaction paru le 19 mars 2025 dans Le Moniteur acadien. C'est une petite révolution dans le domaine de la fourniture de soins de santé qui pourrait soulager les communautés de la province. En vertu d'une initiative lancée en octobre 2023, 10 médecins de famille formés à l'étranger ont reçu la capacité d'exercer au Nouveau-Brunswick. La première cohorte de 10 médecins a été présentée à la presse récemment dans l'amphithéâtre de l'hôpital Dr. Georges L. Dumont à Moncton. 5 d'entre eux travailleront pour le Réseau de santé Vitalité et les 5 autres pour le Réseau Horizon. En facilitant l'entrée en poste de médecins formés à l'étranger, nous contribuons à faciliter l'accès aux soins de santé primaire pour des milliers de patients, a déclaré la docteure France Desrosiers, présidente directrice générale du Réseau de santé Vitalité. Initié en octobre 2023, le programme PRANB est administré par le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick. Il offre aux médecins de famille formés à l'extérieur du Canada une voie accélérée vers l'obtention d'un permis d'exercice au Nouveau-Brunswick. Cette filière permet aux participants d'être évalués sur une période de 12 semaines sous la supervision d'un médecin agréé afin de s'assurer qu'il possède les compétences et les aptitudes nécessaires pour offrir des soins sécuritaires et de qualité aux patients de la province. Nous sommes ravis d'accueillir ces médecins dans notre province, a déclaré la docteure Laurie Potter, registraire et présidente directrice générale du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, CMSNB. Ces médecins ont suivi une évaluation rigoureuse confirmant leurs compétences en tant que praticiens et nous sommes heureux que, grâce au programme PRANB, des milliers de Néo-Brunswickois auront désormais accès à un fournisseur de soins primaires. Parmi les médecins embauchés par le Réseau de santé Vitalité, 4 commenceront leur pratique dans la zone Restigouche, tandis qu'un médecin exercera dans la région Chaleur, zone Acadie-Bathurst. Ces nouvelles recrues contribueront directement à améliorer l'accès aux soins pour les patients dans ces régions, soit en offrant des soins aux patients hospitalisés, soit en assurant une prise en charge communautaire. Nous voulons accompagner l'intégration de nos nouveaux médecins tout au long du processus et faciliter leur installation dans leur nouvelle région. Un accompagnement adapté est essentiel pour qu'ils puissent s'établir durablement et offrir des soins de qualité à la population, a ajouté la docteure Nathalie Banville, vice-présidente aux affaires médicales. Le ministre de la Santé, le docteur John Dornan, a déclaré aux journalistes qu'en moyenne, un médecin prend en charge entre 1200 et 1500 patients, parfois davantage. Il a ajouté que l'arrivée de 10 nouveaux médecins contribuera à réduire la liste d'attente pour un médecin de famille dans la province. Nous prévoyons que 15 000 à 20 000 personnes seront retirées de la liste, a déclaré le ministre. Il a indiqué que le nombre de personnes inscrites sur la liste change constamment et n'a pas fourni d'estimation. La province s'oriente vers des cliniques de soins collaboratifs, mais on ne sait pas encore si ces médecins y travailleront, selon l'un des nouveaux médecins. Une deuxième cohorte de 10 médecins amorcera son évaluation clinique sur le terrain à l'automne prochain. Les candidats retenus s'engagent à travailler pendant 3 ans au Nouveau-Brunswick en vertu d'une entente de service avec le ministère de la Santé. Cette initiative résulte d'une collaboration entre le ministère de la Santé, le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, les deux réseaux de santé, la Société médicale du Nouveau-Brunswick et les centres de formation médicale de la province. C'était le Nouveau-Brunswick compte 10 nouveaux médecins de famille formés à l'étranger. Un texte de la rédaction paru le 19 mars 2025 dans le Moniteur acadien.
Transmettre le Nord, hommage à Bernard Saladin d'Anglure, un texte de Simon Houle, paru le 19 mars 2025 dans le Nunavoie. Le Nunavoie rend hommage à Bernard Saladin d'Anglure, anthropologue français et figure notoire d'Igloolik, qui a su marquer les esprits du Nord au Sud par sa passion pour la culture inuite et ses efforts pour la diffuser. Sur le terrain, jusque dans les universités, il a su raconter le peuple du froid et rendre justice à sa résilience et sa créativité. Infatigable passeur culturel, son legs est immense. Quand je suis arrivée au Nunavut il y a 14 ans, j'ai demandé à Mme Cécile Guérin, alors responsable du Franco-Centre, de me nommer des francophones importants du Nunavut. Deux noms furent prononcés, Bernier et Saladin. Le capitaine Bernier, grand explorateur arctique du début du XXe siècle, ne m'était pas totalement inconnu. En partie lévisien, tout comme moi, son nom est indissociable de l'histoire de l'Arctique canadien. Saladin, le père et le fils, m'apprenait-elle, un ethnologue français spécialiste en culture inuite et un artiste circassien, fondateur de la troupe Art Cirque, tous deux associés à la communauté d'Igloolik. Si j'ai assisté à quelques représentations de la troupe Art Cirque et suivi à distance leurs aventures internationales, tout en étant impressionné par leur implication communautaire et territoriale, Bernard Saladin d'Anglure demeurait pour moi un universitaire travaillant dans l'ombre. Comme je me trompais. En apprenant son décès récent, le 13 février 2025, à l'âge de 88 ans, j'ai retracé le parcours de l'homme dont on m'avait parlé à mon arrivée. J'ai commencé par me plonger dans son œuvre la plus connue, Être et renaître Inuit, homme, femme ou chaman, un essai anthropologique paru chez Gallimard en 2006, qui fut considéré comme un futur classique par les spécialistes dès sa publication. En lisant Saladin, on entend un conteur passionné, un vulgarisateur aussi, qui maîtrise la complexité des mythes d'un peuple qui passe de l'oralité et des traditions à la modernité occidentale souvent forcée. Pédagogue qui sait respecter ses sources et son lectorat, il réussit ici, en quelques 400 pages, à couvrir une étonnante palette de sujets grâce à des témoignages de première main. Symbolisme, conception originale de l'humain, cosmologie, transsexualisme, chamanisme, souvenirs intra-utérins, récits fondateurs, sa connaissance de la langue et son immersion complète dans la culture inuite lui ont permis de faire découvrir au monde des histoires millénaires qui auraient pu rester strictement locales, faute de passeurs culturels extérieurs au territoire, pour faire le pont. Un livre accessible et captivant, qui devrait assurément se retrouver entre toutes les mains des Nunavummiut avant la fin de leur parcours scolaire. Suivant ces lectures, j'ai voulu en connaître un peu plus sur le personnage, l'homme qui fut adopté par le Nord et ses habitants. Je savais qu'entre ses séjours arctiques, il travaillait comme chercheur et enseignant à l'Université Laval, jetant les bases des études supérieures anthropologiques en français en Amérique du Nord au début des années 70, avec d'autres grands noms débutants comme Bernard Arcan, Louis-Jacques Doré ou Louis-Edmond Hamelin. À ma grande surprise, je n'ai pas eu à fouiller bien loin. Un appel téléphonique à la maison suffit. En effet, ma mère, historienne, et mon père, ingénieur forestier spécialiste du Nunavik, ont tous deux suivi son premier cours en 1973, Ethnologie des Esquimaux. C'était un infatigable conteur, un personnage comme Cousteau, toujours une tuque sur la tête. On ne prenait pas de notes, on allait voir un show, se rappelle mon père, ajoutant « Il prenait ses histoires du Nord, par exemple, ses débuts comme dynamiteur à Shefferville, pour nous amener lentement à découvrir ces Inuits dont nous connaissions que très peu de leurs us et coutumes. » Pour Stéphane Cloutier, ancien directeur aux langues officielles du Nunavut et incidemment spécialiste du capitaine Bernier, Saladin demeure un grand précurseur. J'ai bien connu Bernard comme jeune chercheur à l'Université Laval, dit-il. Il était derrière les conférences d'études inuites qui m'avaient fortement impressionné. Directement dans la tradition de terrain de Knud Rasmussen, il était aussi avant-gardiste. Il filmait et enregistrait des chansons, des contes, et ce, dès les années 60. Il était organisé, structuré, et ses enregistrements, maintenant numérisés, sont disponibles en ligne pour le bénéfice de tous. Cloutier a pu côtoyer l'anthropologue en 1993 en suivant son cours désormais rebaptisé avec justesse « Ethnologie des Inuits ». Il fut aussi son directeur de stage. Sa force, c'est qu'il était extrêmement bon conteur. Il aimait élaborer sur ses théories, il était passionné par ce qu'il faisait, et j'en garde un bon souvenir. Il poursuit. Tout le monde connaît Bernard Saladin à Igloolik, spécialement dans les familles qu'il avait adoptées. Elles avaient partagé leurs histoires et connaissances pendant plus de 30 ans, et les liens sont demeurés forts jusqu'à la fin. Peu avant la pandémie, M. Saladin, qui habitait en France, lui avait demandé de l'aider à organiser son dernier voyage dans la communauté. Le voyage n'a pas eu lieu. En revanche, son souvenir est toujours vif. Gila Palouk-Cloutier, conjointe de Stéphane, est originaire d'Igloolik. C'est elle qui lui a annoncé la nouvelle qu'elle a apprise via Facebook. Il termine. Les réseaux sociaux de la communauté ont explosé à l'annonce de son décès. Tout le monde l'a appris très rapidement. Il était aimé. Difficile de ne pas avoir une pensée pour Guillaume Saladin, son fils qui a aussi perdu le fruit d'années de travail lors de l'incendie qui ravagea les installations d'Arc Cirque et l'aréna d'Igloolik le jour même du décès de son père. Aujourd'hui, deux piliers de ma vie sont réduits en cendres. Il y a beaucoup à rebâtir. Papa repose maintenant au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, dans le caveau familial Saladin. Il est retourné en France, là où tout a commencé pour lui. Nos condoléances à la famille et aux amis. pour découvrir Bernard Saladin d'Anglure, son essai « Être et renaître inuit », une lecture essentielle pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au mythe fondateur inuit, se trouve facilement en vente en ligne. Sur YouTube, on retrouve plusieurs courts films couvrant différentes époques, mais surtout une grande série en 20 épisodes de 30 minutes, publiée sur la chaîne « Les possédés et leur monde ». Cette série laisse toute la place à M. Saladin, qui raconte sa vie et ses multiples projets chronologiquement. C'était « Transmettre le Nord, hommage à Bernard Saladin d'Anglure », un texte de Simon Houle, paru le 19 mars 2025 dans le Nunavoie.
Le ramadan des musulmans francophones de la Colombie-Britannique. Entre foi, endurance et solidarité. Un texte de Paul T. Chilolo, paru le 14 mars 2025 dans La Source. Le ramadan est un mois sacré pour les musulmans du monde entier. Un moment de spiritualité, de jeûne et de partage. En Colombie-Britannique, où la communauté musulmane francophone est minoritaire, vivre pleinement cette période demande des efforts supplémentaires. Entre diversité linguistique, accès aux ressources religieuses et maintien des traditions, ces fidèles s'adaptent pour perpétuer leur foi. Rencontre avec Kamar et Ibrahim, deux musulmans francophones d'Abbotsford, qui partagent leur expérience du ramadan dans cette petite ville de la grande région de Vancouver. Une communauté discrète mais engagée. La Colombie-Britannique est une province multiculturelle où se côtoient de nombreuses communautés d'origine arabe, pakistanaise, sud-asiatique et africaine. Pourtant, la présence musulmane francophone y est encore limitée. Je connais au moins 5 francophones qui fréquentent notre mosquée, explique Kamar, originaire du Maroc et installé à Abbotsford depuis 8 ans. C'est la première année que je rencontre autant de musulmans francophones ici, et cela a été une belle surprise. Ibrahim, qui a vécu 19 ans au Québec avant de s'installer en Colombie-Britannique il y a 2 ans, partage un constat similaire. À Montréal, la communauté musulmane francophone est très grande. Les enseignements islamiques se font en arabe et en français, alors qu'ici, ils sont souvent en anglais ou parfois en arabe. Les pratiques du ramadan sur les bords du Pacifique. La pratique du ramadan en Colombie-Britannique repose sur les mêmes principes fondamentaux qu'ailleurs. Jeûne du lever au coucher du soleil, prière nocturne, tarawih, lecture du Coran et moments de partage en famille ou entre amis. Pendant la journée, nous prions, nous visitons la mosquée, nous lisons le Coran et nous apprenons davantage sur l'islam, raconte Kamar. Chaque soir, nous faisons 8 prières. Des imams viennent et les jeunes participent à des discussions religieuses. À Abbotsford, les musulmans ont accès à 2 mosquées principales, dont le centre islamique. Ibrahim y retrouve régulièrement 10 d'autres francophones. Après la prière, nous discutons tous ensemble dans nos langues respectives, mais l'anglais reste le principal moyen de communication. Un ramadan vécu avec intensité est le défi de l'accès aux produits halal. Un autre aspect important du ramadan est la cuisine. Les musulmans doivent consommer des aliments halal, notamment de la viande sacrifiée selon les rites islamiques. Kamar se souvient des difficultés rencontrées à son arrivée en Colombie-Britannique. Il y a 8 ans, trouver de la viande halal était ici un vrai défi. Cette année, nous avons 2 boucheries bien connues où nous pouvons nous approvisionner facilement. Ibrahim confirme cette amélioration. À Abbotsford, nous avons 3 boucheries halal, ce qui nous facilite grandement la tâche. malgré les défis, le Ramadan en Colombie-Britannique demeure un mois de bénédiction et de renouveau spirituel. Kamar, qui a grandi dans un environnement musulman, trouve chaque année une nouvelle signification à ce mois sacré. Cette année, j'ai beaucoup appris sur ma religion. Nous avons eu des cours tous les vendredis et dimanches, et j'ai approfondi mes connaissances comme jamais auparavant. Ibrahim partage ce sentiment d'unité renforcée. Le Ramadan est un mois que Dieu a choisi, un mois de miséricorde et de bénédiction. C'est un temps de grande récolte spirituelle. Solidarité et engagement communautaire. Si la communauté musulmane francophone de Botford reste modeste, elle ne manque pas d'initiatives pour renforcer la solidarité. Des iftars collectifs sont organisés lorsque cela est possible et les membres s'entraident pour maintenir leur tradition malgré les contraintes. Kamar insiste sur l'importance de créer des activités pour les enfants afin de les rapprocher de la religion. Ici, on doit faire plus d'efforts pour organiser des rencontres et des événements qui permettent aux jeunes de mieux comprendre leur foi. Une intégration dans un contexte anglophone. L'un des défis majeurs pour les musulmans francophones d'Abbotsford est la barrière de la langue. Certaines prières et enseignements religieux se déroulent en anglais. La langue qui nous unit ici, c'est l'anglais, souligne Ibrahim. Sur les recommandations d'Allah, nous ne faisons pas de différence entre francophones et anglophones, car nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Pour Kamar, cette diversité linguistique ajoute une difficulté supplémentaire à l'organisation du Ramadan. C'est plus compliqué de se rassembler, car il y a des barrières de communication entre les différentes origines. Malgré cela, des efforts sont faits pour maintenir un lien entre les croyants francophones, notamment par des cours et des discussions religieuses. C'était le Ramadan des musulmans francophones de la Colombie-Britannique, entre foi, endurance et solidarité, un texte de Paul T. Chilolo, paru le 14 mars 2025 dans La Source.
Dans le quartier new-yorkais de Queens, la peur de Trump plombe les affaires. Un texte d'Anna Fernandez de l'agence France-Presse paru le 21 mars 2025 dans Le Devoir. Plus personne ne sort, plus personne n'achète, souffle Nader dans son magasin de meubles de Corona, un quartier populaire de New York où se concentre une forte population immigrée. Depuis que Donald Trump a repris le pouvoir, les commerces locaux tournent au ralenti. Avec la promesse du président américain de mener la plus grande vague d'expulsion de l'histoire du pays, ce coin du Queens, d'ordinaire animé, s'est désertifié, frappant de plein fouet une économie locale qui profitait du pouvoir d'achat des travailleurs, quand bien même en situation irrégulière. « Le travail est mort », résume encore Nader, qui a refusé de donner son patronyme. Depuis janvier 2025, personne n'achète de meubles parce que les gens ont peur d'être arrêtés et expulsés, confie à l'AFP cet Américain d'origine palestinienne, installé depuis 2016 au cœur de ce quartier latino. Rares sont ceux qui lui achètent encore un matelas, un lit ou une commode, alors qu'ils craignent de devoir tout laisser sur place en cas d'expulsion, explique Nader, 57 ans, qui passe désormais jusqu'à 3 jours sans une seule vente. En cet après-midi de mars 2025, la place Corona, bouillonnante avant l'investiture de Donald Trump, est quasi vide. Désormais, le vendeur de meubles craint pour son commerce, dont il n'arrive plus à payer le loyer, 7 000 $. Tout s'effondre. L'équation est la même dans les commerces alentours. Boutiques de vêtements, épiceries, restaurants ou encore stands de nourriture qui subissent la même chute d'activité. Tous évoquent une baisse de leur chiffre d'affaires de 40 à 60% depuis l'investiture. Ravier. Qui a également refusé de donner son nom? Employé mexicain d'une boutique de téléphonie, décrit le cercle vicieux. Avant, les gens dépensaient sans problème. Ils avaient un travail, de l'argent. Maintenant, ils sortent travailler sans être sûrs de rentrer chez eux. Son chiffre d'affaires a été divisé par deux, ses habitués laissant passer leur âge avant d'investir dans un nouveau téléphone ou un accessoire. Les clients réduisent leur forfait, d'autres se contentent du minimum pour ne pas perdre leur numéro, raconte-t-il. Lui-même reconnaît avoir transféré ses économies au Mexique, ne gardant à New York que le strict minimum pour le loyer et la nourriture. Que va-t-il se passer s'il continue d'expulser? Interroge encore Javier, 31 ans, pour qui l'économie du quartier repose entièrement sur la communauté hispanique. Si elle disparaît, tout s'effondre, prévient-il. La peur au ventre. D'autant que les employeurs, soucieux d'éviter de potentielles sanctions, font de moins en moins appel aux travailleurs sans papier, expliquent ces derniers. Francisco Lopez, ouvrier du bâtiment originaire de l'Équateur, vient par exemple d'être remercié, avec en guise de solde de tout compte un chèque sans provision, raconte-t-il au bord des larmes. Selon lui, les employeurs renouvellent désormais leur main-d'œuvre tous les 15 jours. Sur ce point au moins, Atselina, prénom d'emprunt, est à l'abri. La Mexicaine de 53 ans tient sur la place Corona son propre stand de nourriture pour lequel elle a obtenu une autorisation municipale bien qu'elle soit en situation irrégulière. Pour le reste, son affaire dégringole comme toutes les autres. 400 à 500 $ de chiffre d'affaires quotidien il y a quelques mois encore. 150, jeudi dernier. « Je dois venir travailler, même avec la peur au ventre », assure la mère de famille qui paye ses impôts aux États-Unis depuis qu'elle y a émigré il y a 32 ans. Entre le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier et le 12 mars, les États-Unis ont expulsé 28 319 personnes, a fait savoir à l'AFP la Police fédérale de l'immigration, ICE. Atselina se dit moins inquiète que ses quatre enfants, terrorisée à l'idée qu'elle puisse être, elle aussi, renvoyée dans son pays d'origine. La vendeuse envisage de signer une procuration à son aîné, 21 ans, pour qu'elle puisse s'occuper de ses frères si jamais elle était arrêtée. « Vous êtes américain », leur répète-t-elle. « Vous pourrez venir me voir au Mexique. » C'était « Dans le quartier new-yorkais de Queens, la peur de Trump plombe les affaires ». Un texte d'Anna Fernandez de l'agence France-Presse, paru le 21 mars 2025 dans Le Devoir.